Donc vous avez lu le programme, revenir à Dieu, retour à Dieu. Peut-être que vous êtes dit, en voyant ce titre, bon, c'est un sujet assez étrange pour les chrétiens, revenir à Dieu, retour à Dieu. Peut-être que vous êtes dit intérieurement, est-ce que vraiment j'aurais besoin de revenir à Dieu? Bon, peut-être qu'on saura à la fin de cette rencontre, dans l'intimité de notre âme, si on a eu besoin de revenir à Dieu. Alors, c'est un très grand sujet, le retour à Dieu dans l'Écriture. J'aurais pu prendre beaucoup de passages, beaucoup d'exemples, mais là, on n'est pas là pour faire une étude. Ce n'est pas le lieu. Et j'ai pris trois hommes. J'ai pris Abraham, il s'appelait pas encore Abraham, Abraham, Asa, et le troisième, c'est un problème parce qu'il n'a pas de nom. Pourtant, il est très célèbre dans l'Écriture, mais il n'a pas de nom. On l'appelle le fils prodigue. Donc, nous nous immergeons immédiatement dans le texte biblique. Alors, en Genèse 12, donc le retour à Dieu dans la vie de ces trois personnes, Abraham, Asa et ce jeune homme, le fils prodigue. Dans Genèse 12, je lis. Et l'Éternel avait dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Et Abraham s'en alla, comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot s'en alla avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'ils sortirent de Charan. Et Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous leurs biens qu'ils avaient amassés, et les âmes qu'ils avaient acquises à Charan, et ils sortirent pour aller au pays de Canaan. Et ils entrèrent au pays de Canaan. Et Abraham passa au travers du pays jusqu'à Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Et le Cananéen était dans le pays. Et l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta semence. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Et il se tourna de là pour aller à la montagne à l'orient de Bethel. Et il tendit sa tente, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient, et il bâtit là un autel à l'Éternel et invoqua le nom de l'Éternel. Et Abraham partit marchant et allant vers le midi. Et il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait sur le pays. Et il arriva comme il était prêt d'entrer dans le pays, qu'il dut à Saraï, sa femme. Voici, je sais que tu es une femme belle de visage, et il arrivera que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, c'est ta femme, ils me tueront et te laisseront vivre. Dieu, je te prie que tu es ma sœur, afin qu'il m'arrive du bien en considération de toi, et que mon âme vive à cause de toi. » Donc il y a ce qui se passe en Égypte pendant ce séjour malheureux. Au chapitre 13, « Et Abraham monta d'Égypte vers le midi, lui et sa femme, et tout ce qui était à lui, et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et il s'en alla en ses traites du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. » Jusqu'au temps où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait auparavant. Et Abraham invoqua là le nom de l'Éternel. Donc il est revenu géographiquement au point de départ. Il a fait un grand crochet. Donc Abraham, cet homme de foi que la parole de Dieu avait fait sortir d'Ur des Chaldéens, la parole du Dieu de gloire, Dieu de gloire ça veut dire quelqu'un qui doit promettre des choses merveilleuses si c'est le Dieu de gloire. Et ça l'a mis en marche cet homme. Et il arrive en Canaan, il a dû passer à Damas par le nord et arriver par la Galilée, verdoyante, et puis il a des pérégrinations un certain temps dans la Galilée, puis il est descendu vers le sud, vers Sichem, et là on voit qu'il bâtit un autel à l'Éternel et il dressa sa tente. L'autel, dans la vie des patriarches, Correct. À un moment donné, quand il bâtit un hôtel, Abraham en a bâti, Jacob en a bâti, Isaac aussi, probablement, je crois. C'est un moment de consécration nouvelle où ils affirment leur relation avec Dieu. On pourrait dire qu'ils mettent tout sur l'autel. Ils se consacrent à Dieu. Il y a des moments dans notre vie où on se consacre à Dieu. Il me semble que c'est ça, bâtir l'autel. On met tout, on sacrifie tout. Où le Seigneur te donne tout. Et la tente, son caractère de pèlerin, ces patriarches conserveront ce caractère pendant 3 siècles. Ils ne se fixeront pas, d'ailleurs, nous avons lu dans le texte que c'est à sa semence, à sa descendance, que le pays sera promis. Dieu a promis 2 choses à Abraham, le pays et une semence, et un héritier. 2 choses. Ça ne sert pas à grand-chose d'avoir un héritier si on n'a pas d'épreuves. Et ça ne sert pas à grand chose d'avoir de l'espace si on n'a pas d'hérité. Donc, 2 choses. Donc, Abraham, il est dans le chemin de Dieu, dans le chemin de la foi. C'est la foi, la confiance en Dieu qui l'a fait partir, c'est la confiance en Dieu qui continue. Pour nous, c'est pareil. Il y a un jour, on a cru en Dieu. On a mis sa confiance en Dieu, mais ce n'est pas seulement de dire il y a 30 ou 40 ans que j'ai mis ma confiance en Dieu, mais c'est aujourd'hui, c'est jamais, tous les jours, et cet homme de Dieu, il continue avec foi dans les promesses de Dieu, les promesses que Dieu lui a faites. Il réitérera plusieurs fois au cours de sa vie. Donc, on peut dire qu'il est dans le chemin de Dieu, il n'y a pas de problème. Et voilà qu'il arrive une grande épreuve à Abraham. La famine. On a juste lu le texte, hein, mais ça vient d'où la famine dans les pays d'Orient? Ça vient de la sécheresse. La sécheresse, ça ne vient pas en un jour. Et ça a été dramatique dans la vue d'Abraham et de tout son campement. Les nombreuses personnes du bétail qui étaient avec lui. Et je trouve que cette famine, cette sécheresse, qui conduit à la famine. C'est très facile à lire le texte. Mais vous savez, ça doit être assez terrible, une famille qui vient de la sécheresse. Et ceux qui ont vu le film dans la série des personnages bibliques, je trouve que c'est très bien rendu. Cet épisode est particulièrement poignant. Qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien, le vent d'Est, il a soufflé. Le vent d'Est, ça correspond à un vent brûlant qui vient du désert de Syrie, un des points les plus chauds du monde et puis au sud du grand désert d'Arabie, qui se met à souffler sur la Judée, sur le bas de la Palestine, et qui dessèche tout. Et dans le film, on voit ça, une tempête de sable, et les moutons d'Abraham périssent les uns après les autres, et les enfants, les petits-enfants ont la gorge desséchée. Et c'est une question de vie ou de mort. Et Abraham, il est que Dieu m'a abandonné. Et Sarah, il dit, mais si nous restons là, nous sommes tous morts. C'est poignant. Et voilà, c'est une épreuve, cette situation que lui, Abraham et sa famille et tout son campement correspondent dans notre vue à l'épreuve de la foi qui nous tombe dessus progressivement parce que, comme je l'ai dit, la famine, ça ne vient pas d'un seul coup, c'est comme une étoffe qui se resserre. On traverse parfois des épreuves, on dit au début, c'est pas grand-chose, hein, le sec un petit peu, mais... Et après, les taux se referment sur nous. Et il faut savoir comment on va se comporter. Et sur le plan humain, c'est étonnant que Abraham soit parti vers le sud. Parce qu'il connaissait la Galilée, probablement il était venu par le nord, par Damas et par la Galilée. Et la Galilée, c'était vers l'Orient. Donc pour ses troupeaux, il aurait pu dire, je vais remonter vers le nord. C'est sur le plan humain, mais ça aurait pu être. Pourquoi il descend vers le ciel, on ne sait pas trop. Parce qu'il faut savoir comment on fait face à l'épreuve de la foi. Là, j'appelle cette scène quand l'épreuve nous éloigne de Dieu. Quand l'épreuve nous éloigne de Dieu, c'est anormal que l'épreuve nous éloigne de Dieu. Donc, normalement, il doit nous rapprocher de Dieu, mais vous allez me dire, c'est géographique, il est descendu en Égypte. Bon, oui, c'est géographique, mais... Il y a quand même un aspect spirituel, puisque Jésus, vous avez observé dans le texte, il est revenu à son hôtel et à sa tente en Trahul. C'est précis, on voit que le Saint-Esprit appuie bien sur le retour au point qu'il avait quitté. Donc il y a quelque chose, une portée spirituelle. Et puis comme on l'a souvent dit, il n'y avait pas d'hôtel et de tente en Égypte. Non, non. L'Égypte, bon, c'est vrai que ça typifie le monde, mais oui, quand l'épreuve de la foi nous éloigne de Dieu, on peut réfléchir à cette situation-là. Donc il a fait un grand crochet en Égypte, et vous savez, en Égypte, tout ce qui arrivait, il a dû dire que sa femme était sa sœur, parce qu'elle était belle, et puis bon, les Égyptiens, ils étaient contre l'adultère. Mais les gouverneurs, les gens importants, contournaient la loi, vous savez comment ils contournaient la loi, ils tuaient le mari d'une femme qui était belle pour l'avoir. Donc voilà, c'était pas l'adultère, mais c'était le crime. Et ça, c'était connu, Abraham le savait, donc il a dit un mensonge, on dira un demi-mensonge, si c'était sa demi-sœur, mais c'était un tout gros mensonge. Et puis il a ramené, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené Agar, l'Égyptienne, la servante, qui servait Sarah, ses parents, et Agar, vous savez les conséquences que ça a eu. Donc ça a été un crochet, ça a été un éloignement de Dieu réjudiciable, même pour la suite. Et même on pourrait dire que cette déviation, cet éloignement de Dieu a des conséquences encore aujourd'hui. Alors, c'est triste quand même cet épisode dans la vie d'Abraham, quand l'épreuve, la mise à l'épreuve, nous éloigne de Dieu. On dit qu'il aurait dû compter sur Dieu, oui. Mais, alors, je ne sais pas si vous avez réfléchi à cette scène, qui, comment dire, où est la défaillance d'Abraham? Parce qu'il était responsable de sa tribu, de son clan, et qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? J'ai dit sur le plan humain, monter vers la Galilée. Oui, peut-être, mais enfin bon. Alors, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse? Où est-ce que ça n'a pas marché? Il me semble que la réponse est, on la trouve, Ésaü, chapitre 30. Au début du chapitre, les deux premiers versets. Malheur aux fils qui se rebellent, dit l'Éternel, pour former des desseins, mais non de par moi, et pour établir des alliances, mais non par mon esprit, afin d'ajouter péché sur péché, qui s'en vont pour descendre en Égypte, et ils n'ont pas interrogé ma bouche. Ah ben ça, on n'y avait pas pensé, ça. Dans le texte, il y a un silence. Il n'a pas interrogé la bouche de l'Éternel, comme il sera dit plus tard, dans le livre de Juges. Abraham, un homme de foi, il n'a pas interrogé la bouche de Dieu. Des fois, on s'éloigne de Dieu parce que, tout simplement parce qu'on n'a pas interrogé la bouche de Dieu. Peut-être qu'il y a la décharge d'Abraham, et qui ne serait pas à la nôtre, c'est qu'Abraham, il n'y a pas longtemps, tu connais le Dieu de gloire, le Dieu unique. Il était là-bas, à Ur des Chaldéens, où il y a beaucoup de faux dieux. L'archéologie, même les amis, a découvert. Il n'y a pas longtemps qu'il connaît Dieu. Mais nous, il y a peut-être longtemps. Quand on est dans une mise à l'épreuve, on est un peu coincé. Il faut qu'on interroge la bouche de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au moins ça. Tu n'interroges pas la bouche de l'Éternel. Et alors, si devant une mise à l'épreuve, on n'interroge pas la bouche de Dieu, à coup sûr, on va employer des moyens humains. Alors là, pour être très pratique, je vais donner un témoignage personnel. C'est un petit peu le jour de témoignage personnel. Je crois. Il y a un frère, Jean, qui a dit l'autre jour qu'il fallait de la diversité. C'est très vrai, et nous en aurons de la diversité dans nos réunions. Je donne ce témoignage personnel pour deux raisons. La première, c'est que de temps en temps, je regrette un petit peu que les frères qui nous ont enseigné dans notre jeunesse n'aient pas mêlé au ministère de la parole un petit peu des témoignages personnels des délivrances de Dieu. Ce que Dieu avait fait dans leur vie. Je sais que le ministère de la parole, ce n'est pas de raconter sa vie, mais tout de même, et là l'apôtre Paul, même dans les Épîtres, il raconte des choses personnelles, des choses circonstancielles. Ça nous frappe de plus en plus. Ce n'est pas seulement doctrinal. Vous voyez, quand on a un ministère de la parole, les circonstances conduites ne sont jamais quand même tout à fait bien loin. Elles sont même très près. Ça n'a pas valeur de doctrine, bien sûr. Mais il faut savoir qu'il y a du vécu aussi dans notre vie, dans la vie de ceux qui s'expriment. Et puis, deuxièmement, il y a beaucoup de jeunes là, je ne voudrais pas que les jeunes pensent que les frères qui les enseignent sont des spécialistes de l'écriture, et je parle un peu au nom de mes frères, mais je sais qu'ils ils sont tout à fait d'accord avec moi, les spécialistes de l'écriture, et qu'ils n'ont pas à faire des difficultés, des épreuves, des mises à l'épreuve, des déboires, des tentes, des ennuis de toutes sortes. Si nous sommes exactement, nous, comme tous les croyants, si nous sommes des croyants ordinaires, vous savez.